J'ai une vive conscience de mon privilège. Exposer un texte où retentit la formule choc « ni homme ni femme » qu'on croirait emprunter à la propagande d'une ligue féministe est une tâche agréable comparée à celle d'autres orateurs de cette journée où l'on se sent porté par l'évolution des mœurs et le courant apparemment irrésistible de l'histoire. La force de cette formule, ni homme ni femme, formule centrale, permettra, je pense, aux auditrices d'avaler la pilule un peu amère qui consiste pour elles à se trouver dans la compagnie peu reluisante des païens et des esclaves. J'ai aussi l'avantage d'étudier un texte relativement facile par rapport à d'autres textes. La question que nous posons à ce verset est donc la suivante. La présentation des sexes faite ici par Paul est-elle de nature à autoriser des conclusions relatives à la place de la femme au ministère de la femme dans l'Église, pour ne pas parler de la société? Nous devons être très prudents. À beaucoup d'égards, vous le voyez, nous devrons être très prudents, car, remarquons-le, Paul ne traite pas directement du problème du statut et des rôles respectifs de l'homme et de la femme. Ce verset 28 rentre dans un développement qui va du verset 21 au verset 29, par lequel Paul établit que ce sont les croyants, et non pas les juifs ou les judaïsants, qui sont les véritables bénéficiaires de la promesse, bénéficiaires de la promesse en tant que postérité d'Abraham. Comme Paul a déjà montré en Jésus la postérité d'Abraham, son effort consiste ici à exprimer l'étroitesse, la force du lien qui unit les croyants au Christ. Ceci lui permettra de conclure au verset 29, « Puisque vous, croyants, païens d'origine, vous appartenez au Christ de cette manière, aussi étroitement, alors il est évident que vous êtes postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Retenons que la relativisation de la distinction entre les sexes est ici avant tout mise au service de la valorisation de l'union de tout croyant, quel que soit son origine, de tout croyant au Christ lui-même. Comme le temps m'est compté, je choisis, pour tenter de situer aussi exactement que possible la portée de ce texte, une méthode simple, la méthode comparative. Tout d'abord, ce verset doit être considéré avec en arrière-plan les données sociales et religieuses de l'époque, et plus encore en fonction de l'interprétation religieuse de ces données. Je m'en tiendrai ici au cadre fourni par le judaïsme, qui est celui qui nous intéresse le plus directement. On trouve cette interprétation religieuse dans cette célèbre prière du judaïsme, « Béni soit Dieu qui ne m'a pas fait gentil, c'est-à-dire païen, béni soit Dieu qui ne m'a pas fait femme, béni soit Dieu qui ne m'a pas fait ignorant. » Plusieurs auteurs n'hésitent pas à écrire que Galates 3, 28 est la réponse de Paul, la réponse chrétienne de Paul à cette prière juive. Les deux ensembles se correspondant par leur structure ternaire. La ressemblance est encore plus frappante si l'on tient compte d'une variante connue, même si elle est plus tardive, où le troisième terme, ignorant, est effectivement remplacé par le mot esclave. On retrouve donc les trois termes de Galates 3, 28. Quoi qu'il en soit, la prière juive, prière d'homme, bien sûr, prière de juif, prière d'homme libre, indépendant, suppose une certaine conception du monde, la conception d'un monde statique et hiérarchisé, où des différences de statut et de privilèges, y compris dans le domaine religieux, sont déterminantes. Le privilégié, dans cette prière, l'homme, le juif, l'être libre, remercie Dieu de ses privilèges, de ce qu'il n'est pas comme les autres hommes, sans trop se soucier des autres. Certes, cette prière n'exprime pas la totalité du sentiment juif à l'égard de la femme. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour comprendre qu'il y avait aussi une façon beaucoup plus positive de voir les choses. Même un livre relativement tardif comme le Siracide, début du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui parle assez longuement de la place de la femme, sait reconnaître l'importance de son rôle. Sans une femme, l'homme gémit et va à la dérive, écrit-il, chapitre 36, verset 26. Et il décrit de façon émouvante la beauté d'un couple qui s'accorde véritablement. Mais il s'agit toujours, au fond, de l'épanouissement de l'homme grâce à la femme, et sans réciprocité. Et curieusement, le Siracide ne s'intéresse jamais à la qualité de croyante de l'épouse. Au sein du judaïsme se développera un effort pour sortir de cette sacralisation primaire de la hiérarchie sociale au bénéfice du privilégié, comme en témoigne cette parole d'un rabbin du IVe siècle, Seder Eliyahu Rabba, qui apparaît aussi comme une correction de la prière juive traditionnelle déjà citée. J'en appelle au ciel et à la terre, juif ou non-juif, homme ou femme, esclave ou femme esclave, chacun porte en lui l'Esprit Saint selon ses actions. Ici est dépassée la valorisation religieuse du statut social par une valorisation de la piété individuelle, indépendamment du statut social ou du sexe. Le Seigneur accorde son approbation, le Seigneur accorde son esprit en fonction des actions humaines, des actions de l'individu. Mais, semble-t-il, cette valorisation religieuse de la piété individuelle n'a pas de conséquences directes sur la vie sociale. Nous sortons maintenant du cadre du judaïsme pour repérer une autre direction prise par cet effort pour assurer à la femme une meilleure part, au moins sous l'angle religieux, c'est-à-dire devant Dieu. Le rôle de la femme sera discuté dans les cercles gnostiques. Je parle ici d'un gnosticisme marqué par le christianisme. Comme en témoigne ce curieux logion qui clôt l'évangile de Thomas, où se développe, enfin elle est relativement brève, mais où se développe cependant une sorte de discussion sur le ministère féminin et où apparaît une rivalité entre les disciples hommes de Jésus, représentés par Simon-Pierre, et les disciples femmes, représentés par Marie-Madeleine. Voici ce logion 249-250. Simon-Pierre leur a dit « Que Marie sorte de parmi nous, parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Jésus a dit « Voici, moi, je l'entraînerai, donc j'entraînerai Marie, afin que je la fasse mal, afin qu'elle soit elle-même esprit vivant, ressemblant à vous mâle, parce que toute femme qui deviendra mâle entrera dans le royaume des cieux. » La femme, d'une part, est rabaissée au point d'être considérée comme indigne de la vie véritable, dans la bouche de Pierre, et comme une sorte de sous-produit de l'humanité, dans la bouche de Jésus, et d'autre part, il y a volonté de réhabilitation, volonté de lui ouvrir pleinement l'accès au royaume, mais à une condition, il faut qu'elle devienne mâle. Il y a égalité, égalité religieuse, mais par assimilation à l'homme. Il semble qu'il y ait en même temps, dans ce texte, une justification en vue d'un rôle religieux actif de la femme dans le groupe gnostique. On rencontre encore dans l'Antiquité une ligne de réflexion plus spéculative, s'attachant au thème de l'unité fondamentale du monde et utilisant dans ce sens l'affirmation biblique de l'unité de cette dualité qu'est le couple humain. Une parole étrange a fasciné les auteurs des premiers siècles, parole que Clément d'Alexandrie attribue à l'évangile des Égyptiens, évangile apocryphe, évangile que nous ne connaissons que par quelques brèves citations, évangile originaire d'Égypte, bien sûr, et évangile pagano-chrétien, qu'on date généralement de la première moitié du deuxième siècle, et où se manifestent clairement des tendances ancratites, c'est-à-dire ascétiques, si vous voulez, et gnostiques. La forme la plus simple de cette parole se trouve dans l'homélie dite deuxième épître de Clément, vers le milieu du deuxième siècle. La voici. En réponse à quelqu'un qui lui demandait quand viendrait son royaume, le Seigneur lui-même a déclaré, lorsque les deux seront un, l'extérieur comme l'intérieur, et que l'homme sera avec la femme comme s'il n'y avait ni homme ni femme. Pour que vienne le royaume, il faut donc que la diversité ou même les contraires se résolvent dans l'unité, et entre autres que l'homme et la femme soient ensemble et non différenciés. L'unité résulte d'une sorte de fusion des divers. Le caractère théorique, abstrait de l'affirmation, permettait des applications très libres selon le bon plaisir des utilisateurs. La deuxième épître de Clément que je viens de citer la met au service, pour ce qui concerne le couple, d'une exhortation à la pureté et à la continence. En effet, il est expliqué, c'est-à-dire que le frère, voyant une sœur, ne pense point qu'elle est femme, ni la sœur que son frère est un homme. Clément d'Alexandrie, Stromate 3.13, fournit la variante suivante, présentée comme réponse du Christ à une question de Salomé sur le temps où seront connus les mystères, c'est-à-dire au fond le temps de la venue du royaume. Lorsque vous aurez foulé aux pieds le vêtement de la pudeur, lorsque les deux ne feront qu'un, le mâle et la femelle, et qu'il n'y aura plus ni mâle ni femelle. Clément récuse ce logion parce qu'il n'appartient pas aux quatre évangiles reçus, et il récuse en même temps l'utilisation qu'en font les docètes qu'il combat pour prêcher une continence absolue. Il lui oppose précisément la formule de Galates 3.28, mais avec une légère modification, une modification significative, puisqu'il la lit de cette façon, « Il n'y a plus en nous ni homme ni femme. » Ceci lui permet d'en donner une interprétation de facture platonicienne. « Quand l'âme se détourne des passions dans le repentir et se concentre dans l'unique obéissance au Verbe, c'est-à-dire le Christ, lorsqu'elle se dégage de l'enveloppe charnelle par laquelle on distingue les sexes, alors elle passe à l'état d'unité et n'est plus ni mâle ni femelle. Le souci de Clément d'Alexandrie est celui de l'unité de l'âme en Dieu, âme devenue indifférente aux distinctions sexuelles. Dans l'évangile de Thomas, déjà cité, apparaît encore une forme, mais un peu plus développée, du même texte, ce qui montre qu'on pouvait trouver plusieurs lignes de vérification du principe général d'unité qui était posé dans cette parole. Voici ce logion, les logion 63, Jésus leur a dit, lorsque vous serez de deux un, et que vous serez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et afin que vous soyez le mâle et la femelle, un unique, afin que le mâle ne soit pas mâle, et la femelle ne soit pas femelle, alors vous entrerez dans le royaume. Là s'énonce vigoureusement la vision gnostique de l'unité universelle fondamentale dans laquelle doivent disparaître les dualités, les oppositions. Après ce survol de textes comparables, dans toute leur variété, il nous faut revenir à Galates 3.28, dont l'originalité va ressortir. Ce verset se prête, me semble-t-il, aux remarques suivantes. Il importe, pour le comprendre, de ne pas s'arrêter à l'expression « ni homme ni femme », mais de voir la totalité du verset, de voir que cette formule prépare l'affirmation de l'unité « vous êtes tous un seul en Christ ». Deuxième remarque, Paul emploie le présent. Il décrit une réalité actuelle et non une condition d'entrée dans le royaume ou de venue du royaume comme dans les passages d'inspiration gnostique. Il serait sans doute excessif, et la troisième remarque, de parler de banalisation de la relation homme-femme mise apparemment au niveau des autres relations sociales, païens, juifs, esclaves, libres. La relation homme-femme constitue sans doute, par sa place, un sommet de l'énumération. On a remarqué aussi la curieuse rupture de rythme de ce verset, oudé, et puis un kai, que la tobe, par exemple, permet de sentir dans la traduction. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, et on attendrait, il n'y a plus ni homme ni femme, en fait, c'est un peu différent, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Pourquoi cette présentation particulière, cette rupture de rythme? Automatisme amené par le souvenir de Genèse 1.27, qui en grec donne ceci, « Arsène, caethelu et poiesen autus », où l'on trouve donc la formule « l'homme et la femme », volonté d'exprimer l'union fondamentale entre l'homme et la femme, et le caractère illégitime de toute opposition, ce serait tentant, mais la comparaison avec un texte comme Colossiens 3.11, où le « et », le « kai » en grec, est employé aussi pour d'autres types de relations, affaiblit cette conclusion. Quatrième remarque, l'unité qu'énonce le eis, le un seul, n'est pas celle du couple, que l'écriture exprime différemment par la formule bien connue, une seule chair, mia sarx. Et d'ailleurs, la perspective dans la fin de ce verset est plus large, tous vous êtes un seul en Christ. Et ce n'est pas non plus une abstraction, un chiffre, une construction de l'esprit. Hélas, les traductions ne permettent pas toujours de s'en rendre compte. Il vaudrait mieux traduire « tous, vous êtes un seul être, une seule personne. » Eis est un masculin et non un neutre. Il est frappant que les textes postérieurs, déjà cités, emploient, eux, le neutre, révélant ainsi une tendance à quitter le plan de l'existence pour celui de la théorie et de la spéculation. Cette tendance est manifestée très tôt, car les manuscrits de type occidental ont déjà remplacé eis par en, donc le masculin par le neutre, pour Galates 3:28. Eis, masculin, désigne un seul être, une personne vivante. Pour déterminer l'identité de cette personne, il est utile de comparer, je vous avertis que ma méthode serait essentiellement comparative, avec les textes de même construction et de même inspiration. Je mentionnerai Colossiens 3:11, très particulièrement, et 1 Corinthiens 12:13. Je ne prendrai pas le temps de relire ces passages, mais je noterai que ce qui correspond au « eis », au « un seul », dans Galates 3:28, c'est dans 1 Corinthiens 12:13 « en soma », un seul corps, et dans Colossiens 3:11 « ta panta caien pasin Christos », le Christ qui est tout en tous. Le « un seul » de Galates 3:28, c'est donc l'homme nouveau que le croyant revêt. Cet homme nouveau, si fondamentalement dépendant du Christ, nouvel Adam, qu'il peut même être appelé le Christ. Galates 3:27, il est question de revêtir le Christ. Ce un seul, c'est la création nouvelle ayant une dimension collective. C'est en vérité un peuple nouveau, une humanité nouvelle, aussi bien qu'individuelle, la créature nouvelle. Cet être nouveau, unique et collectif, en Christ, englobe, nous dit l'apôtre, homme et femme. Ainsi, la thèse de Paul est que la différenciation sexuelle et les disparités sociales et religieuses qu'elle entraîne ne portent nullement atteinte à la réalisation en Christ, par l'œuvre de l'Esprit, de cette prodigieuse unité de vie nouvelle qu'est l'Église, corps de Christ. Dès maintenant, en Christ, l'unité la plus profonde est accordée. Peut-on alors tirer de cette thèse des conclusions relatives à la place concrète de la femme dans l'Église? L'apôtre ne les tire pas, ces conclusions, et il faudra sans doute attendre la peur des études qui suivront pour y voir plus clair. Texte où Paul se situe lui-même sur le terrain de la vie pratique des communautés. Cependant, dès maintenant, il est possible d'affirmer que le verset, dans son ensemble, et tel que nous avons essayé de le comprendre, se refuse à plusieurs types d'interprétations que je mentionnerai rapidement. Il se refuse, me semble-t-il, à une spiritualisation radicale. Je vise ici une lecture où le « en Christ », un seul « en Christ » serait compris comme désignant la sphère de la pure intériorité, ou, ce qui reviendrait pratiquement au même, la sphère des réalités invisibles célestes ou encore eschatologiques. Cette spiritualisation viderait la proclamation de Paul de tout contenu concret. Et elle m'apparaît inacceptable. Galates 3:28 signifie certainement d'abord la fin des privilèges religieux, devant Dieu, certes, mais aussi devant les hommes. Le message même de l'épître aux Galates dans son ensemble, c'est la nullité, la vanité des prérogatives religieuses devant Dieu, du circoncis comme du mal, puisque tout est par grâce, par le moyen de la foi. Et ce dépouillement de tout homme devant Dieu a nécessairement des conséquences pratiques, comme le démontre la volonté de Paul de voir les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens cohabiter harmonieusement, de même qu'il demandera aux maîtres et aux esclaves de se considérer comme des frères. Mais le texte se refuse également à toute volonté d'uniformisation
de négation de l'altérité, de la différence, et de la possibilité de vivre cette différence. Là encore, la relation juif-païen ou la relation esclave-homme libre sont exemplaires. Ainsi, dans cette épître, Paul s'oppose avec la dernière énergie à la tentative judaïsante d'imposer à tous les croyants la circoncision, c'est-à-dire l'uniformisation. Chaque croyant vivra selon son état, le circoncis, avec sa circoncision et ses rites, et le pagano-chrétien sans la circoncision, sans l'obéissance minutieuse à toutes les règles du judaïsme. Mais ils vivront dans le cadre d'une acceptation commune, d'un accueil mutuel. Paul accepte les différences dans la mesure où elles ne mettent pas en cause la manifestation visible de l'unité réalisée en Christ. Pas de nivellement égalisateur, mais nécessité de la communion, de la koinonia, manifestation de l'unité. Enfin, il n'est guère possible non plus d'interpréter Galates 3.28 comme une contestation directe d'un ordre social donné. Paul prend les choses comme elles sont et demande aux chrétiens de vivre chrétiennement dans les circonstances qui sont les leurs. Et je termine par ces quelques mots. Reconnaître les limites du message de ce verset n'est pas, pour autant, le minimiser. Il affirme l'égalité de tous devant Dieu, puisque les prérogatives des privilégiés sont sans valeur devant lui. Il affirme l'unité parfaite en Christ de tous les croyants. Paul ne gomme pas les différences, sans dire d'ailleurs exactement où se situent ces différences. Mais pour lui, l'unité déjà accordée en Christ va transformer complètement la façon de vivre ces différences.
Il y a des difficultés de texte, par exemple le mot gloire, des mots qui dans ce contexte bref des versets 12, 2 à 11, du chapitre 11, la première épître aux Corinthiens, des mots difficiles parce qu'ils sont curieusement employés et qu'il ne faudrait pas trop tirer un sens théologique dans la manière où ils sont employés. Alors j'ai essayé de dire comment j'ai compris l'argumentation de Paul. Au chapitre 11, donc de la première épître aux Corinthiens, nous pouvons isoler les versets 2 à 16 du contexte sans, je pense, être gêné. C'est une enclave qui se situe bien dans le contexte, mais pourtant une enclave particulière où Paul essaie de répondre à une question. La question qui préoccupe Paul est celle-ci. Est-il convenable qu'une femme dans une assemblée d'église, une assemblée culturelle, prie Dieu sans être voilée? Bien sûr, seul le contexte culturel permettrait de comprendre l'acuité de cette question. Mais Paul parle d'affront, de honte, et ces mots sont l'expression d'un désordre à l'intérieur de l'église de Corinthe. Et ce désordre fait surgir des sentiments violents chez Paul. Son argumentation va se situer sur deux plans. D'abord, la conformité à l'ordre divin dans la société, et deuxièmement, la conformité à la nature de la femme et de l'homme dans la relation homme-femme. Le premier plan, conformité à l'ordre de Dieu. Dans les versets 3 et versets 11. Cette conformité établit d'une part une relation de l'homme à la femme identique à celle de l'homme au Christ, mais aussi identique à celle de Dieu au Christ. Mais une question subsiste. Que veut dire le mot képhalè, tête, que l'on peut également traduire par chef? Dieu, nous dit Paul, est le chef ou la tête du Christ. Le Christ est la tête de l'homme et l'homme la tête de la femme ou le chef. Est-ce que réellement il utilise le mot tête, kephalé, dans le même sens les trois fois? Il semble difficile de l'accepter, mais lui-même ne donne pas d'explication. Donc on reste sur cette question. S'il y a en effet une relation exprimée par tête, quelle est cette relation? D'autre part, dans ce même verset 3, la progression de la phrase exprime nettement une hiérarchie qui va de Dieu à la femme en passant par le Christ et l'homme. Cette hiérarchie présuppose une supériorité de l'homme sur la femme, mais de quel ordre est-elle? Il ne le précise pas. Paul va essayer de dire que cette conformité à l'ordre divin est inscrite dans la relation de l'homme et de la femme depuis la création. Et Paul se réfère au deuxième récit de la création dans la Genèse. La femme tire son origine de l'homme. La femme a été tirée de l'homme et formée, je ne dirais sans doute pas comme dans la traduction de la Tobe, pour l'homme, mais à cause de l'existence de l'homme, si j'essaie d'être fidèle au fait qu'il emploie trois fois la préposition grecque « dia » dans ce passage et pour garder la même traduction à chaque fois. Donc, même sans ce détail, la femme est destinée à compléter l'existence de l'homme conformément à ce que le texte de la Genèse indique. Et sa conclusion, c'est pourquoi la femme doit avoir sur la tête, littéralement, une puissance à cause des anges. Je ne vais pas chercher en détail le sens de cette expression, mais il est clair que l'expression indique que la femme doit porter extérieurement le signe de sa dépendance à l'égard de l'homme, et ceci par respect pour l'ordre établi par Dieu dès l'origine. C'est ainsi que j'ai interprété à cause des anges, sans vous donner le détail de toute la recherche. Cependant, dit-il au verset 11 et 12, dans le Seigneur, c'est-à-dire en Christ, l'homme et la femme sont interdépendants. La femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, dans la réalité vivante du Christ ressuscité, en Christ, dans le Seigneur, la femme et l'homme n'existent pas l'un sans l'autre. Là aussi, d'après l'argumentation de Paul, cette réalité est posée dans la nature humaine. L'homme naît de la femme et ne peut se prévaloir d'aucune supériorité. Car en définitive, dit-il, tout vient de Dieu. Donc, pour Paul, il semble que l'autorité de l'ordre divin se manifeste de deux manières. D'une part, dans une interdépendance de l'homme et de la femme vécue en Christ, inscrite dans la nature humaine. Et d'autre part, dans une supériorité de l'homme sur la femme, également inscrite dans l'humanité dès son origine. L'homme, dit-il, est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. Au verset 7, depuis la création, ici je paraphrase un peu, Dieu reflète sa gloire dans l'homme, son image, et la femme est le reflet de la gloire de l'homme. Là, il y a également une difficulté, difficile à résoudre, que signifie le mot gloire, le mot doxa, qui a un sens très fort dans les épîtres de Paul. Est-ce que ce sens est également là, je dirais non, simplement parce que je ne sais pourquoi tout d'un coup
un peu plus loin, il va dire que la gloire de la femme est dans sa chevelure. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je crois que en restant fidèle au texte sans tirer sur lui, il veut dire qu'il y a un reflet de la nature de chacun qui est visible. Et c'est sur la base de l'ordre divin inscrit dans la nature du couple homme-femme que Paul pose la question : est-il convenable qu'une femme prie sans voile ? Pour Paul, y répondre négativement signifierait mettre en cause la conformité de la vie humaine selon l'ordre voulu par Dieu. Sur quel plan se situe cette contestation possible ? En ne portant pas de voile, la femme fait affront à sa propre nature, dit-il, car le voile n'est ici qu'un rappel du don naturel qu'est sa chevelure. Elle porte un voile, nous dit Paul, pour rappeler la chevelure qui est un don de la nature. L'homme, par contre, n'a pas à porter de voile conformément à ce qu'il est naturellement. Mais, second point, la femme fait aussi affront à l'homme en ne portant pas de voile, parce que le voile est le signe de sa soumission à l'homme. C'est ce signe visible d'une relation. L'homme, par contre, qui se couvrirait la tête, ferait affront au Christ. Il veut dire donc qu'il y a une attitude visible, extérieure, qui explicite la nature propre de chacun. Mais, devant Dieu, l'homme et la femme, dans ce chapitre 11, peuvent prier et prophétiser si leur attitude est conforme à l'ordre établi par Dieu dans la nature. Donc la question n'est pas de savoir dans ce texte si la femme peut prier et prophétiser dans une assemblée, mais quelle est son attitude dans la dignité de sa condition de femme par rapport à l'homme, qui lui permet de prier et de prophétiser à l'égal de l'homme. Une question surgit pourtant. Si Paul indique clairement quel est le signe de la extérieure, de la dépendance de la femme par rapport à l'homme, il ne dit pas quelle est extérieurement la manière d'exprimer l'interdépendance qui font que l'homme et la femme n'existent pas l'un sans l'autre dans le Seigneur. Cette question dans notre texte reste ouverte. Il me semble donc que le texte ici ne pose pas la question de la fonction de la femme dans l'Église. Et sans doute ne faut-il pas l'interroger en ces termes. Pourtant, l'écoute du texte nous oblige peut-être à nous interroger sur ce que nous pensons de la nature, de la conformité de la nature humaine, de sa conformité à l'ordre que Dieu a inscrit dans la nature, dans sa complémentarité de couple. En d'autres termes, si je suis exact, il s'agirait alors de répondre à la vocation de l'homme et de la femme. L'image de l'autorité de l'homme sur la femme nous est donnée dans ce texte par la relation vécue entre Dieu et le Christ et entre celle vécue entre le Christ et l'homme. Mais une question que nous pourrions poser au texte, quelle est la nature de cette relation? Comment se concrétise-t-elle dans la réalité? De plus, je crois que le texte nous montre très clairement que la question de la vocation de la femme n'est jamais posée sans la mettre en relation avec celle de l'homme. Mais si on ne parle plus en termes de vocation, l'autorité de l'homme sur la femme risque de se présenter comme un pouvoir auquel la femme est soumise et contre lequel elle se défend. Une question que je me suis posée, je partagerai volontiers avec vous, ne peut-on pas dire que la perte du sens de la vocation de l'homme entraîne aussi la perte du sens de la vocation de la femme? Et là, je suis sortie de l'exégèse et je me suis demandé si réfléchir sur le ministère de la femme à l'écoute de ce texte de l'Épître aux Corinthiens, ce ne serait pas d'abord pour la femme s'interroger sur sa vocation de femme dans la vocation du couple, parce qu'ici, il est clair qu'il s'agit du couple et non pas de l'homme et de la femme séparément. Mais c'est aussi pour l'homme connaître sa propre vocation et chercher en la femme l'aide qui, dans sa manière d'être propre, offrira la complémentarité qui lui permettra d'être dans le Seigneur avec la femme. Et là, je crois que il est clair que pour Paul, ici, la femme est épouse et mère. Et c'est là qu'il dit quel est le miroir qui reflète le vrai visage de l'homme et elle révèle ainsi à l'homme ce qu'il est lui-même. Ainsi, dit Paul Evdokimov, elle est gloire de l'homme. Voilà, je suis sortie à la fin en essayant de dire quelles étaient les questions qui avaient surgi à partir de la lecture de ce texte de Paul. Au chapitre 14, ce n'est pas plus simple qu'au chapitre 11. Sauf, peut-être, et c'est pourquoi je suis plus brève, que le contexte dans lequel apparaît la question ou la réponse très forte de Paul est plus clair. À partir du verset 26 du chapitre 14, Paul règle des questions d'ordre à l'intérieur des assemblées du culte. Et c'est en demandant qu'un ordre suffisant existe pour qu'il y ait une écoute mutuelle dans l'église de Corinthe pendant leurs assemblées que Paul parle de la relation de la femme avec l'homme dans ses assemblées. Et là, si au chapitre 11, il a pu dire « quand la femme prie et prophétise », ici, il lui dit très clairement qu'elle doit se taire. Si on voit le contexte dans lequel il le dit, il oppose la soumission de la femme à son mari au fait de parler dans les assemblées cultuelles. Il considère donc que parler dans une assemblée est honteux. Le terme est fort, comme l'était au chapitre 11 le fait pour une femme d'avoir la tête rasée. Donc Paul voit dans cet acte-là, de manière surprenante, un acte qui n'est pas conforme à la nature de la femme. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y voit un acte d'autorité par lequel la femme prend la place de l'homme? C'est une question, je ne sais pas. Que signifie ici parler? Il y a des discussions. Il est clair qu'il n'a pas voulu dire prier, parce que ce n'est pas le terme qu'il emploie au chapitre 11. Il n'a pas voulu dire prophétiser non plus, je pense qu'il l'aurait dit. S'agit-il du parler en langue, comme le contexte semblerait pouvoir l'indiquer? Cependant, dans le contexte, quand il s'agit du parler en langue, c'est assez explicite pour qu'on ne puisse pas se tromper. Le verset 35 semble indiquer qu'il pourrait s'agir de prendre la parole pour interroger. Mais la construction de la phrase grecque peut également laisser penser que le verset 35 est une restriction. Ce serait un exemple parmi d'autres. Donc, que signifie parler? Quel est l'acte vraiment de la parole ici? Ce n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que pour Paul, il s'agit d'un désordre fondamental. Et il est très ferme, il dit au verset 37, que le fait pour une femme de parler dans une assemblée cultuelle est contraire à la volonté du Seigneur. Il demande à l'église de Corinthe de s'y soumettre parce qu'il est sûr, lui, qu'il ne parle pas à son nom propre, mais au nom du Seigneur. devant une affirmation qui pourrait paraître contradictoire avec ce qu'il disait au chapitre 11, il faut se demander s'il n'y a pas à l'arrière-plan une difficulté plus vaste qui est simplement un exemple. Il semble, quand on lit le contexte entier du chapitre 14, qu'une des difficultés de l'Église de Corinthe, c'est sans doute une difficulté dans la reconnaissance d'une autorité qui proviendrait d'une réelle écoute de la parole de Dieu. Très rapidement, je le pense par le fait même que Paul rappelle constamment l'ordre de la parole à donner dans les assemblées cultuelles, ce qui veut dire que les Corinthiens ne s'écoutaient pas mutuellement et que, par conséquent, ce que disait l'un ou l'autre n'avait pas d'importance pour les autres. Si Paul pouvait dire au chapitre 11 que la femme, au même titre que l'homme, prie et prophétise, ici, il lui refuse la parole, mais, je pense, comme un droit qu'elle pourrait revendiquer. Parce que ce droit, si je comprends, tel que je crois pouvoir le comprendre, un droit que l'on revendique n'est pas forcément l'expression d'une écoute de la volonté de Dieu. Et Paul l'affirme très fortement en demandant aux Corinthiens et aux Corinthiennes de se conformer à ce qui se vit dans les autres assemblées chrétiennes, parce que leurs revendications ne se situent pas, sans doute, sur le plan juste d'une Église qui vit dans le Seigneur. C'est une exégèse rapide.